Assalamu alaikum et bienvenue dans votre émission, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. Aujourd'hui, j'ai Khaoula avec moi. Présente-toi, ma sœur.
Salam alaikum, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis Khaoula, je suis conseillère d'éducation et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des mamans qui ont des enfants neuroatypiques, mais plus spécifiquement dans le TDAH et le HPI. Qu'elles soient neuroatypiques ou pas. Donc là, je suis en pleine formation. J'ai presque fini, mais je suis en formation pour le TDAH adulte. Parce que pour accompagner un enfant neuroatypique, si les mamans ont une neuroatypie, c'est encore plus difficile. Et donc, voilà.
Donc là, tu as dit énormément de choses. Il y a beaucoup de lettres. Je n'ai pas tout compris. Donc, ouais. Neuroatypique, c'est quoi exactement? On en entend parler, j'entends parler, mais ça veut dire quoi exactement?
Alors, neuroatypique, il y a le mot neuro et il y a atypique. Ça veut dire qu'il y a une différence neurologique dans le cerveau. OK? Donc, le cerveau a une structure qui est différente, qui fait que l'enfant ou l'adulte, en fait, on naît avec, on meurt avec. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Et c'est différent, mais par rapport à quoi? Parce qu'on est tous différents. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tous créés différents. Mais c'est neuroatypique. On dit neuroatypique aux personnes qui sont différentes par rapport à la majorité, par rapport à une norme qui s'est faite dans la société.
Au fait. D'accord.
Donc c'est vraiment, il faut que tous les parents gardent ça en tête, c'est hyper important, tous les gens qui nous regardent, la neuroatypie, ça fait pas de toi genre juste différent ou bizarre, non, t'es juste différent par rapport à une majorité, mais si les neuroatypiques d'aujourd'hui étaient eux la majorité, ben, ils seraient eux la normale et les autres neuroatypiques, tu vois. La neuroatypie, c'est vraiment une question de normes, une question de majorité et de minorité, tout simplement.
D'accord. Et comment on peut repérer qu'un enfant est neuroatypique? Comment ça se repère quand il est petit comme ça?
Alors, neuroatypique, puisqu'on parle de normes, ça veut dire comment on le remarque, c'est à l'école ou à la maison. Nous, on a cette norme, inconsciemment, on a cette norme. On sait, l'enfant, il doit être comme ça, il doit faire ça, il doit avoir des facilités à lire, s'il a des difficultés à lire, s'il est dans la lune, s'il est inattentionné, s'il bouge beaucoup. À chaque fois que ça sort de cette normalité, on remarque, ah, il y a quelque chose qui va... Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les bons spécialistes. Il y a beaucoup de spécialistes. Chaque professionnel est spécialisé dans un domaine. On va aller voir le bon qui va nous faire un bilan. Et c'est ce bilan-là qui fait ressortir la neuroatypie.
D'accord. Donc, dès que l'enfant est diagnostiqué, on va dire, bon, même si ce n'est pas une maladie, je ne pense pas.
C'est un diagnostic. On appelle ça un diagnostic. Ce n'est pas une maladie.
C'est d'accord. Un trouble. Donc, s'il fait le diagnostic que l'enfant est neuroatypique, que doivent faire les parents?
Alors, quand tu vas aller voir, par exemple, on va parler du TDAH, parce que en ce moment, je suis en plein lancement d'un programme pour accompagner les mamans d'enfants qui ont un TDAH. En fait, il y a un bilan qu'on peut faire chez une psychomotricienne ou un psychomotricien. J'ai toujours une, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de femmes. Et en fait, quand tu vas faire un bilan attentionnel, la psychomotricienne va te donner un bilan et dire que oui, ton enfant a de l'inattention plus que les autres. C'est toujours question de normes. Hein. On se rappelle toujours de ça. Voilà, il a beaucoup plus d'inattention. Il va te donner un bilan que tu vas prendre, tu vas emmener chez... Alors, il y en a plein qui peuvent diagnostiquer le TDAH. Soit un pédopsychiatre, soit un neuropédiatre, soit un neuropsychologue qui va lui aussi faire un bilan. Et donc, tu vas voir ce professionnel-là et qui va te faire un bilan. Il va te poser beaucoup de questions, etc. sur l'enfant depuis toujours, dans ses différents environnements, etc. Et quand tu vas avoir le bon diagnostic, à ce moment-là, en France, il y a des dispositifs mis en place par l'État.
D'accord.
Au niveau de l'école. OK? Donc, il y a beaucoup de dispositifs qu'on appelle PPRE, PAP, en fonction, en fait, de l'étape où tu es dans le diagnostic. Et si c'est officiel et tout, tu peux carrément demander un PPS et être reconnu comme un handicap TDAH. C'est considéré comme un handicap en France. Et donc, tu peux faire une demande auprès de la... J'ai dit beaucoup de sigles, hein, mais ceux qui nous regardent, ils peuvent taper sur Google, ils vont trouver. C'est la MDPH, donc c'est la Maison de l'Handicap. Tu fais une demande et quand c'est reconnu, eh ben, il y a beaucoup de choses, il y a des aides, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, justement, puisque c'est considéré comme un handicap.
D'accord. Alors, si j'ai bien compris, un enfant qui est neuroatypique... Il peut être très intelligent, il peut être le premier de la classe.
En fait, ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence. même les enfants qui ont des troubles dys, donc des dyslexies, des dysorthographies, dyscalculies, dysphasie, dyspraxie, en fait, c'est un trouble à part. L'enfant peut être extrêmement intelligent. Il peut être HPI, HPI c'est haut potentiel intellectuel, ou même THPI c'est très haut potentiel. Et comme il peut avoir une intelligence normale, comme il peut avoir une intelligence basse. Donc en fait, c'est dissocié avec l'intelligence. OK? Il n'y a que le HPI qui lui, en fait, c'est une mesure de QI. Ça, par contre, c'est carrément une mesure de QI. Si le QI dépasse 130 THPI, si le QI est plus bas que 130, t'es pas HPI. Mais ça encore une fois, c'est juste la norme, c'est juste le bilan qui a été mis en place parce que un enfant peut avoir un haut potentiel intellectuel, mais rater, entre de gros guillemets, rater son test de QI et avoir un QI inférieur. Et donc, c'est là où le rôle du professionnel que tu vas avoir, de la psychologue clinicienne ou du neuropsychologue, qui est hyper, hyper important, parce que lui, il connaît le trouble, il va bien observer et il pourra poser le diagnostic en fonction de ses observations et des bilans.
Tu en parles avec passion. Alors, moi, qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de t'intéresser à ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie?
Alors moi, ce qui m'anime de ouf, c'est que je me suis découverte neuroatypique à l'âge de 30.
D'accord.
Et je me suis dit, c'est juste pas possible en fait qu'on découvre ça. En fait, quand tu découvres les neuroatypies, quand tu poses un diagnostic et que tu poses des mots sur ce que tu as vécu pendant 30 ans, tu te dis, c'est pas possible en fait. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais trop, que j'étais pas assez, que j'avais des difficultés, mais je comprenais pas pourquoi. En même temps, j'avais d'autres facilités mais j'avais jamais d'explication. En vrai, entre nous, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais toute ma vie, je pensais, j'étais convaincue, hein, que tout ce qui m'arrivait, c'était grâce au doigt de mon grand-père, là. Après, ça a forcément contribué, hein. Non, ça joue parce que les doigts, c'est tellement puissant. Mais pour moi, j'expliquais tout avec ça. Je me disais à chaque fois que j'avais des difficultés, que je galérais, que ça se facilitait. Je me dis, c'est lui, en fait, c'est les doigts de mon grand-père, parce que Allah Malik, c'était un homme incroyable. Et j'expliquais tout par ça. Et alors qu'il y a beaucoup de choses, bien évidemment, les doigts, c'est puissant. Mais quand j'ai compris que mon cerveau était différent, que c'était juste ça, c'est pour ça que je me sentais en décalage constamment, que j'essayais de rentrer dans. Ce que je dis, en fait, toujours à mes clientes, c'est que c'est comme si tu as un moule rond. En fait, tout le monde on doit avoir que des ronds dans la société. Et toi, t'es carré. Et en fait, tu veux rentrer dans le rond absolument parce que tu veux être comme tout le monde. Tu veux être accepté, tu veux être apprécié, tu veux être aimé. C'est normal. C'est inné, c'est instinctif. Et du coup, tu te brises, en fait. Tu te casses, tu enlèves tes bords. Et pour justement être dans, voilà, rentrer dans la norme. Et c'est dommage. Parce que tes petits trucs là que tu es en train de casser, c'est ça se trouve, c'est ce qui fait ton charme, c'est ce qui fait ta force, c'est ce qui te représente, c'est toi, ça fait partie de toi. Et ensuite, ce n'est pas toi. Et ça, c'est hyper important parce que on est neuroatypique, on a une neuroatypie, on a un TDAH, un HPI, des troubles dys et tout, mais ça ne nous définit pas. Ce sont les petits bords, mais tout le cercle, voilà, tu as une personnalité, tu as des envies, tu as de la famille, tu as une éducation, tu as une religion, tu as des croyances, tu as tellement de choses qui te font, en fait, toi, et tu n'es
D'accord.
pas juste ta neuroatypie. Mais ça fait partie de toi et c'est hyper important de la connaître, de l'accompagner, de l'apprivoiser, de vivre avec et de ne pas la subir.
Je comprends que la neuroatypie, ce n'est pas forcément toute ta personnalité, ça n'englobe pas toute la personne que tu es, mais ça a été une liberté et une délivrance de l'avoir découvert à 30 ans, non?
Ah mais complètement. Mais moi j'étais en fait en vrai le truc qui m'a le plus aidé quand j'ai découvert ça, c'est que je suis devenue, pour le dire de façon vraiment, pour le schématiser, je suis devenue plus gentille avec moi-même.
D'accord. Je
Tu vois?
t'accepte plus.
Je m'accepte plus et je suis plus gentille. Je suis plus de la. En fait, mon discours interne
J'ai
a
l'impression.
changé. En fait, ton discours interne, il change et en fait, quand tu t'acceptes plus. Et à ce moment-là, tu commences à mettre en place des choses et tu vis, comment dire, c'est que tu prends ta neuroatypie, tu la prends comme une donnée. Tu n'es plus en train de combattre. T'es plus en train de forcer. T'es plus en train de vouloir plaire aux autres. T'es plus en train de vouloir te conformer à une certaine norme que tout le monde, en fait, c'est bon, t'arrêtes de vouloir rentrer dans le rond. Tu te dis, c'est bon, moi je suis un carré, c'est comme ça, je suis comme ça, et je vais vivre, je vais apprivoiser ce carré, et je vais aller voir les petits bords, et je vais vivre avec, et je vais en faire une force, et je vais voir qu'est-ce qui va être adapté à ce carré. Il faut que je trouve un autre moule carré, en fait, et que je rentre dedans, et que ce soit ça ma vie. Et que j'arrête de vouloir absolument rentrer dans le rond, parce que déjà, c'est pas possible. Tu te fais du mal, tu te blesses, en fait, dans la route, parce que, voilà, tu te casses, en fait, tu te blesses, ça sert à rien. Et surtout que c'est possible de vivre avec. C'est vrai que c'est dur, parce que la société, est... tout le monde ne connaît pas. Moi, par exemple, il y en a beaucoup, énormément, surtout mon entourage, mes copines qui voulaient m'encourager au début sur Instagram et tout, ils me disaient, mais en fait, je voulais juste t'encourager, mais j'ai appris tellement. C'est quoi ce truc-là de neuroatypie? Ils ne savaient même pas. Et beaucoup, surtout dans mon entourage, qui se sont découverts neuroatypiques après. Pourquoi? En fait, au bout d'un moment, mon mari me disait, mais en fait, toi, tous ceux qui t'entourent, c'est des neuroatypiques. Et c'est vrai pour la majorité, hein, pas tout le monde, mais c'est parce qu'on se comprend entre nous. On a les mêmes difficultés. Et même si on n'a pas encore posé des mots dessus, eh ben, on se comprend. Parce qu'on se dit, ouais, tu galères à faire ça, ben, moi aussi. Et on trouve ça normal. On se dit pas, ah non, mais c'est n'importe quoi. Comment ça t'arrive pas à t'organiser? Mais comment ça t'arrive? En fait, ces personnes-là, elles te jugent pas parce qu'elles vivent les mêmes galères.
Exactement.
Et du coup, inconsciemment, bah, pendant ta vie, voilà, j'ai passé 30 ans. Ça se filtre. Et au final, tes proches, c'est un peu ceux qui te ressemblent. Et subhanallah, pas tous, hein, mais beaucoup d'entre eux, se sont découverts. Et il y en a même qui m'ont dit, ah oui, mais tu sais, moi, j'ai été diagnostiquée quand j'avais 8 ans, mais. Je dis, oh, tu nous en as jamais parlé. Il me dit, bah, pour moi, c'est, voilà. Mais, subhanallah, c'est un monde très fascinant. Et quand on rentre dedans et qu'on accepte vraiment l'acceptation de cette neuroatypie, elle est juste incroyable. Quand tu acceptes, c'est là où tu peux avancer. Parce que sinon, tu marches sur place et tu veux absolument plaire aux autres. T'es pas bien avec toi-même. Et du coup, moi, c'est ma plus grosse mission. C'est que tous les neuroatypiques s'acceptent. Et puissent vivre avec leur neuroatypie.
Mais voilà. Surtout les enfants, parce que tu t'appelles enfant atypique sur les réseaux.
Alors, en fait, pourquoi je visais au début les enfants? Parce que je me disais, c'est pas possible qu'on découvre ça à 30 ans. C'est pas possible, en fait. Il faut que les enfants, que je sensibilise les parents pour qu'ils aillent faire diagnostiquer leurs enfants le plus tôt possible. Et le plus tôt tu aides l'enfant, et le plus, en fait, il va accepter plus tôt. Mais pendant mes accompagnements, j'ai découvert, en fait, ce sont les troubles en général, c'est très héréditaire. Donc, soit la maman, soit le papa, soit les deux. Et du coup, les parents qui avaient le plus de difficultés à appliquer mes conseils, mes stratégies, je devais bosser encore plus avec eux, c'était ceux qui avaient eux aussi un TDAH. Ou elles aussi, surtout, parce que j'accompagne principalement les mamans. Mais si les papas sont là, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça rapporte toujours du plus. Et en fait... Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, il faut que je me forme au TDAH adulte parce que ces mamans-là, il faut les aider, elles, qu'elles puissent aider leurs enfants. Et du coup, c'est là où j'ai créé un programme pour les deux, en fait, pour maman et enfant. Bon, après, excusez-moi, les célibataires, ça viendra peut-être après, mais pour l'instant, c'est vrai que je focus beaucoup sur les enfants parce que je me dis, plus on aide d'enfants et plus c'est les adultes de demain.
Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il y a une grande mode, j'ai remarqué, hein, ces derniers temps, tous les parents, leurs enfants, ils sont HPI, HPE. Quand ils ne savent pas quoi dire, ah ouais, mais il est HPI, ah mais il est HPI. Est-ce que c'est possible ça?
Alors, il faut savoir que HPI, c'est un fonctionnement du cerveau qui est différent de... En fait, ils ont une pensée en arborescence. Quand tu as un HPI, ça veut dire... Ça va super vite dans ton cerveau et une idée enchaîne une autre. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées qui s'enchaînent, etc. Ça va plus vite et ça va tellement vite dans ce qui t'intéresse. Et en fait, quand ça t'intéresse pas ou quand les gens y parlent et que tu t'ennuies assez vite, quand l'enseignant y répète, ben, y a beaucoup d'ennuis et du coup, l'enfant, il s'ennuie et ben, il commence à faire des bêtises en classe, etc. Et c'est possible que ton enfant ait un HPI. Voilà, si tu remarques qu'il s'ennuie, qu'il est très rapide, qu'il est... Et ce qui est, comment dire, on revient à la norme. En France, si ton QI est supérieur à 130, c'est que tu as un HPI. S'il est inférieur à 130, c'est que tu n'as pas d'HPI. Dans les pays asiatiques, par exemple, le seuil est beaucoup plus important. Donc, en fait, si tu as 131 en France, tu n'es pas HPI au Japon.
D'accord.
HPI en France. Et en fait, aujourd'hui, est-ce que l'intelligence globale a augmenté ou diminué? Alors là, j'ai aucune idée. Mais les parents qui disent « Ouais, mais mon enfant, il peut avoir des suspicions. » Et moi, au contraire, je trouve que c'est l'effet de mode. Il est hyper, hyper, hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet d'en parler. Ça permet d'ouvrir la discussion et ça permet d'en parler, en fait. Et ces parents-là, ils vont dire « Ouais, mais je doute. » Ok, c'est bien le doute. Va faire diagnostiquer ton enfant, c'est cool. Mais, alors que avant l'effet de mode, on n'en parle pas. Mais on passe toujours… En fait, avant que quelque chose se démocratise, on passe par un effet de mode, un effet de masse. Moi, à chaque fois, les parents viennent me voir « Ouais, mon enfant, il bouge beaucoup, il a un TDAH. » TDAH, c'est pas que ça. Mais c'est bien, en fait, d'en parler et de douter et d'aller le faire diagnostiquer, parce que si ça se trouve, une maman sur deux trouvera un TDAH. Et donc, c'est tant mieux. La deuxième qui ne trouvera pas, ok, elle trouvera peut-être autre chose ou elle trouvera rien, mais elle sera…
Mais qu'est-ce qu'on fait quand on trouve? On en fait quoi? On diagnostique, on trouve.
Ouais.
Après, les parents, il faut qu'ils continuent derrière avec les outils.
Ah oui,
complètement. C'est pas un trophée, quoi.
Non. En fait, vraiment, comment je le caricature, c'est un peu comme le bac. En fait, quand t'as le bac, t'as l'impression, en fait, c'est bon, t'as le bac, c'est bon, t'as fini. Alors que tu viens de commencer, subhanallah. C'est là où tu viens de commencer le bac, c'est un peu la clé qui t'ouvre des portes. Moi, je parle des gens qui veulent faire des études, etc. Parce que moi, je viens du cursus un peu académique. Et du coup, quand on était jeune, moi, c'était le bac, c'est bon, en fait. Tu passes le bac, tu vas dormir. Mais non. Tu passes l'été à chercher des écoles, tu passes des entretiens. Et là, c'est bon, t'entres en école d'ingénieur. Chaque été, tu fais des stages. Et c'est là que ça commence. Avant, t'étais tranquille. Et en fait, le diagnostic, c'est un peu ça. C'est, t'as une clé. Tu comprends. En fait, tu cherches la serrure. T'as trouvé la bonne serrure. Ok, TDAH, dyslexie, jour. Ok, l'accompagnement de mon enfant est différent. Je comprends mon enfant et je cherche, j'apprivoise, j'accepte déjà. Parce que beaucoup restent dans le déni. Et non, mais mon enfant, il est normal. Oui, il est normal. Allah, il l'a créé comme ça, c'est pour une raison.
Bien sûr.
Et du coup, tu dois juste le comprendre. Arrêter d'idéaliser l'enfant parfait et tout. Il est là, c'est ton enfant, tu l'acceptes comme il est. Subhanallah, il est incroyable comme il est parfait comme il est. La création d'Allah est parfaite, on ne remet pas ça en question. Alors là, juste ce qu'on fait nous, en tant qu'humains, on comprend. Et quand on comprend, on cherche les bons outils, les bonnes stratégies, on accompagne. Il y a beaucoup de professionnels qui accompagnent. Pour les troubles 10, il y a les orthophonistes, les psychomotes, les ergothérapeutes. Même pour le TDAH, il y a des psychothérapies, il y a des neuropsys qui peuvent faire des choses, il y a du neurofeedback. Moi, par exemple, les accompagnements que je fais, je travaille pas avec les enfants, mais j'accompagne les parents. Parce que les enfants, il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place pour eux. Il y a beaucoup de professionnels, les pédopsychiatres, les neuropsys, les psychologues, les orthophonistes, les psychomotes, les ergothérapeutes, il y en a beaucoup. Et donc, il faut juste, bien sûr, moi, ce que je fais dans une partie de mon travail, j'oriente vers le bon. Enfin, on va pas aller tous les voir parce que tous ne règlent pas tous les problèmes. Chacun est spécialisé. Je peux orienter. Je fais ce travail-là d'orienter en fonction du besoin. Mais moi, ce que je fais, c'est vraiment que les parents, la maman, à la maison. Parce que l'enfant est accompagné à l'école, il est accompagné par les professionnels à l'extérieur, mais à la maison, il n'y a pas grand-chose. Et c'est là où j'interviens, parce que le TDAH ou le HPI ou peu importe, ils sont là tout le temps, en fait. Tu vois? Ils sont là tout le temps, ils ne sont pas là que à l'école.
Bien sûr.
Ils sont là à la maison. Ils sont là quand tu vas chez les copains, ils sont là quand tu voyages, ils sont là quand tu vas au supermarché. Les comportements, c'est dur. C'est très, très dur parfois parce que je reviens à ça, c'est pas que de l'hyperactivité. Il y a un retard dans le développement des fonctions exécutives. Excuse-moi si je dis beaucoup de mots, mais les gens, ils peuvent. Voilà.
Non, mais c'est le
problème. Mais...
C'est le seul épisode où il faut un dictionnaire.
Mais je peux expliquer là, on n'a pas le temps.
Ils mettent pause et non.
Après, ils peuvent venir, moi, sur mon compte Insta, j'essaye de banaliser un peu tout ça.
On met ça, on va mettre en dessous, dans la description de ton compte Instagram.
Ça marche.
Ils pourront cliquer. Mais là, c'est le moment pour le sponsor. C'est Kuba Closing. Ce sont des frères musulmans qui ont créé leur marque. Et c'est une marque sunna. Et Khaoula va me dire, c'est quoi une marque sunna? Mais je vais t'expliquer ça
en
quatre points. Premier point, il n'y a pas d'enfant qui travaille pour fabriquer ce vêtement. Donc, on ne culpabilise pas. Deux. L'industrie qui gaspille le plus d'eau, c'est l'industrie du textile. Ils travaillent avec une société qui gaspille le moins d'eau possible. Numéro 3, chaque colis chaque commande que vous faites, c'est un arbre planté. Et numéro 4, vous recevez le colis dans une petite trousse qui est réutilisable pour l'utiliser, faire vos courses avec, ou bien le réutiliser comme colis aussi. Donc, la marque, c'est Touba Closing. On a mis un code promo, c'est HB3Show attaché, pour que vous puissiez bénéficier de moins 15% sur toute la gamme. Je vous mets dans la description le lien, comme ça, vous pouvez aller commander, Inch'Allah. Raoula, j'ai une question.
Oui.
Si tu étais un animal, tu serais quel animal? Et ne me dis pas le lion, tout le monde a dit le lion. Sois original.
Non, pas le lion, moi j'aime bien le panda.
Le panda? Pourquoi? La première fois qu'on répond panda, dis-moi pourquoi.
Je trouve trop mignon.
Ah, d'accord.
Ouais, après, j'aime bien le panda. Mais est-ce que si moi j'étais un animal,
Si tu étais un animal, tu serais quoi? Tu serais pas un panda, non, pas du tout. Tu serais quoi?
Franchement, j'aimerais trop être un panda. Demander toute la journée.
Ah, d'accord. Okay.
Non,
tu peux rien faire. D'accord, ok.
Non, j'aime trop, je trouve trop mignon le panda. Mais moi, j'étais un animal. Mais il faut que je réfléchisse. Attends, les animaux. Alors, moi, vraiment, si j'étais un animal,
c'est la question.
Je serais le colibri.
Pourquoi?
Parce que j'avais lu une histoire sur le colibri que j'ai trop aimé. Mais vraiment, je vais essayer de la faire très brève. Mais la forêt a brûlé et tous les animaux restaient en train de la regarder brûler. Et le colibri, en fait, c'est un petit oiseau, genre je crois que c'est le plus petit, hein, qui prenait un peu d'eau et il allait éteindre. Et tout le monde se moquait de lui. Je disais, mais comment tu vas faire, c'est quoi ça? Il a dit, eh ben, moi, je fais ma part. Tu vois. Et du coup, je me suis dit, en fait, moi, c'est vrai que j'ai tout laissé tomber. En fait, j'ai carrément changé de carrière parce que ce sujet-là des neuroatypies me touche tellement et me passionne, me transcende. Voilà, ça me parle. Quand une maman vient me parler, en fait, je me retrouve en elle. J'ai vécu, en fait, ce qu'elle avait et je la comprends parfaitement parce que moi, j'ai vécu ça moi-même. En fait, moi, mes enfants sont encore petits, donc je ne parle pas de mes enfants, mais moi, j'ai vécu ça. Et je me dis, il faut que je fasse ma part. C'est comme si j'avais une responsabilité. Je me dis, il faut que je fasse ma part. Je vais sensibiliser. En vivre ou pas, ça viendra. Peut-être, voilà, al-Arzak, c'est biadillah, quoi. C'est entre les mains d'Allah. Mais il faut que je fasse ma part. Parce que j'ai un savoir qu'il faut que je transmette. Et du coup, je fais ma part.
Mashallah, tu l'as fait très bien. Ne t'inquiète pas. Tu reçois que les gens de la communauté musulmane ou d'autres communautés?
Je reçois quelques-uns qui ne sont pas de la... Mais la majorité, c'est la communauté musulmane.
La majorité, c'est la communauté
musulmane. Après, franchement, au début, je...
Tu n'es pas fermée, quoi.
Je ne suis pas fermée, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise avec la communauté musulmane. Pourquoi? Parce que j'avais fait un programme d'accompagnement en groupe et tout. Il y avait une fille qui avait intégré qui n'était pas musulmane. Mais en fait, je ne parlais que de... Inch'Allah, des malades. Allah nous a créés.
Elle a dit quoi? Ça a été quoi sa réaction?
Je l'ai prévenue. Elle m'a dit, oui, t'inquiète, je connais des gens et tout. Je crois à bout d'un moment. Mais voilà, après, au début, quand j'ai créé le compte Instagram, j'avais des posts juste écrits, je ne mettais pas du tout ma tête. Et j'avais beaucoup de followers d'un peu partout. Au moment où j'ai commencé à mettre ma tête, ça s'est filtré. Je me suis dit, tant mieux, en fait. Alhamdoulilah, c'est bon. En fait, moi, ça m'arrange. C'est pas grave.
Non, c'est pas grave.
Au contraire. En fait, les gens qui voudront être aidés par moi, comme moi je suis, comme je parle, comme je suis très très naturelle. Et souvent je reçois quand on me rencontre, on me dit « Ah mais t'es trop comme sur tes réels, t'es trop comme… » Je dis « Bah oui, enfin un moment je vais pas me… » C'est moi en fait, c'est moi partout. Et du coup, je suis comme ça. Et comme ça, les clients, ils sont pas déçus. Et moi aussi, je suis pas déçue. C'est bon, ils savent. Et après, s'ils viennent me voir, ils savent comment je suis. Ils savent de quelle confession je suis. Ils savent de quoi je vais parler. Ce sera… toujours le même discours. Et je suis contre les violences. Donc, si une maman vient me voir comment je fais pour punir mon enfant, elle ne trouvera pas cette réponse chez moi, tu vois, par exemple.
D'accord.
Donc, je préfère être claire. Et comme ça, ça filtre, en fait, les gens. Et
exactement.
Je fais de l'entrepreneuriat pour ça. Hein, vous travaillez avec des gens
alors,
alignés avec moi. Voilà.
Mashallah. Il y a une question que je pose souvent à mes invités. Qu'est-ce que tu en penses? Depuis que tu es sur les réseaux maintenant, ça fait un petit moment, qu'est-ce que tu en penses, le manque d'union dans la communauté? Est-ce que tu l'as vécu ou pas? Parce que c'est une grosse thématique dans l'HB3 Show avec les invités. On essaie d'en parler, trouver des solutions. Est-ce que tu l'as vécu ou pas du tout?
Moi, j'ai vécu l'inverse.
Inch'Allah, ben tant mieux, dis-nous.
Alhamdulillah. Après, parce que quand j'ai fait la formation avec Nabila d'Éduquez-moi, au tout début.
Nabila d'Éduquez-moi.
Ouais. Bah en fait, on était en groupe de sœurs Et on s'encourageait, au contraire, on continue là de s'encourager, de se propulser. Et alhamdoulilah, j'ai eu de très très belles rencontres.
Mashallah.
Après, j'ai eu quelques de gros problèmes aussi, mais c'est minime par rapport à... Moi, je vois beaucoup le positif. Moi, je suis très positive. J'essaie de voir le verre à moitié plein.
Mashallah.
Et alhamdoulilah, j'ai eu beaucoup plus de... Après, peut-être que ça fait pas très longtemps que je suis sur les réseaux.
Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux ?
Depuis janvier.
Depuis janvier, là ?
Ouais.
Ouais, je crois que je t'ai vu dans les débuts. Ça fait un petit moment que je te vois.
Ça fait quand même presque une année, mais alhamdoulilah, ça va. Mais je pense que quand tu te montres et quand tu parles et tout, tu attires les gens qui te ressemblent, peut-être.
C'est ça, exactement. Comment tu t'es décidé d'un coup, là ? T'as dit que t'es là que depuis janvier. Comment tu t'es décidé d'un coup à venir sur les
réseaux ? Non, mais ça a pris quand même 2 ans, je crois, de réflexion.
2 ans de réflexion.
Parce que moi, je suis ingénieur, je suis docteur, j'ai fait un doctorat en mécanique, des matériaux. En école d'ingénieur.
D'accord.
Je viens d'un autre monde complètement. Et ça a toujours été ma passion. Donc les neurosciences, l'éducation des enfants, les Montessori, la bienveillance, la parentalité bienveillante, positive et tout ça. Les neurosciences, les neuroatypies, la psychologie en général, je me rappelle depuis que j'avais 10 ans, quoi. J'allais au rayon psychologie.
C'est passionné de lecture.
C'est ma passion. Tu vois, mais jamais, jamais je n'aurais pensé en faire un métier. Pour moi, j'allais bosser en CDI avec mon diplôme ingénieur et que je fais ça en parallèle. Je vais créer un compte Instagram avant celui-là où je partageais mes connaissances. C'était vraiment très perso. Oh. Et là, je sais pas, justement, quand j'ai découvert ma neuroatypie à moi, j'ai senti cette... C'est comme si c'était devenu ma mission tout à coup. C'est comme si j'ai senti que c'était mon devoir d'impacter plus, en fait. Et je peux pas faire ça si je fais un CDI où je bosse de 6h à 19h. En plus, la vie de famille et tout, bon, ça a tout remis en question. Du coup, je me suis formée, je continue de me former. Je crois que j'ai fait un doctorat, donc j'adore me former. J'aime trop me former. Je crois que c'est ça qui m'a permis d'aller loin dans les études. C'est que j'aime ça. Donc, je continuerai de me former tout le temps. Mais j'aime beaucoup, beaucoup transmettre.
Vous avez entendu les jeunes apprendre tout le temps. Même docteur, elle continue à apprendre.
Oui,
alors, ma soeur Khaoula, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi dans les mois qui arrivent ? Tu vas sortir un livre, une formation ? J'aime bien donner des idées aux invités. Chaque fin d'émission, je leur dis. Tu vas sortir, une vidéo, écrire un livre. Qu'est-ce que tu vas faire, du moins ? C'est quoi ?
Alors, pour l'instant, j'ai un programme. J'ai déjà un programme d'accompagnement pour des mamans qui ont des enfants neuroatypiques. Je fais une initiation au TDAH adulte.
Donc,
pour l'instant, c'est une initiation. Et je continue de me former pour justement les accompagner aussi. Et voilà. Donc, ce sera... Après, je reçois énormément de demandes. Enfin, énormément, attends. Faut pas que je dise énormément parce que c'est pas énorme. Je reçois beaucoup de demandes, genre au moins 5 ou 6 demandes de professionnels qui veulent être formés au TDAH. Et du coup, peut-être, éventuellement, dans l'avenir. Mais bon, pas la peine de dire ça. Je ne vais pas le faire. Je ne suis pas sûre de le faire. Mais pour l'instant, je focus sur les mamans. Mais peut-être, en fait. J'ai plein de projets. J'ai trop de projets dans la tête. Mais...
Inch'Allah que ça réussit.
Mais tout doucement, tu vois. Inch'Allah, pas à pas. Mais je travaille sur une formation pour justement rendre ça plus accessible. Et que ça dépende plus de moi, de ma présence, que ça soit que les enfants, que les gens, les mamans puissent avoir accès à cette formation n'importe où et tout le temps. Mais je travaille dessus. Pour l'instant, c'est des accompagnements. Donc, je suis là, c'est en live avec des mamans pour qu'elles puissent apprivoiser le TDAH, aider leurs enfants, arrêter de subir, arrêter le stress, arrêter d'essayer justement de rentrer dans ce moule et de juste bien vivre avec leur TDAH et le TDAH de leurs enfants.
Mashallah, c'est la fin de l'émission. Barakallahu fik, c'était une émission super. On a traité un sujet qu'on n'avait pas l'habitude de traiter. N'oubliez pas vos dictionnaires. Et merci, ma soeur, d'avoir accepté.
Je vais voir en privé, je peux simplifier à votre...
Voilà, elle vous expliquera tout. Elle vous expliquera tout.
Dans 30 minutes, si je rentre dans les détails, c'est bon, on va faire 3 heures.
Voilà, exactement. Donc, barakallahu fik, ma soeur. Merci à tous et je te laisse le mot de la fin.
Eh bien, écoute, Barakallahou fik, merci beaucoup. C'est intéressant de mettre en valeur les musulmans. J'aime beaucoup le concept. Donc, Barakallahou
Merci.
fik, c'est une mission noble. Continue, garde la bonne intention
Merci.
et qu'Allah te facilite dans cette
Moi
noble
aussi.
mission. Voilà. On garde, le plus important, c'est de garder la bonne intention, même si on devient, voilà, on scale et tout, de revenir toujours à la base, à l'intention, à pourquoi on fait ça. Et...
Exactement. Pour Allah.
Merci beaucoup.
Voilà.
Voilà,
C'est la
exactement.
fin du HB3 Show. Salam alaikum.
Salam alaikum.